invite à lire avec moi deux passages de l'Écriture, le premier dans l'Ancien Testament, le second dans le Nouveau. Nous lisons d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Notre deuxième lecture, nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, et nous lisons au chapitre 13 quelques versets. Jésus vient de raconter la parabole du semeur. Et lorsqu'il rentre à la maison avec les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, verset 10, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Dieu nous a fait des yeux pour voir. Mais il ne suffit pas d'avoir de bons yeux pour voir. Encore faut-il les avoir ouverts bien regarder et avoir l'esprit éveillé. Qu'avons-nous fait de nos yeux? Que faisons-nous de nos yeux? Je reviens, bien sûr, au texte du début de la Genèse. Nous avons lu ce récit bien connu, et au cœur de ce débat et de cette tentation, il y a cette question essentielle des yeux ouverts ou pas, et ouverts par qui et pourquoi. Le tentateur vient avec son esprit tortueux et sa question piège. Dieu a-t-il réellement dit ? Ève répond, et le serpent, le tentateur, reprend la question. Vous ne mourrez pas, il contredit directement la parole de Dieu, et après il accuse Dieu de ne pas vouloir le bien de Adam et Ève. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et il fait une promesse. Si je viens de nous rappeler les promesses de Dieu, il y a aussi au début de la Genèse une promesse de Satan. Vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, capables de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Vos yeux s'ouvriront. La femme vit les fruits qui étaient là. Elle prit du fruit, elle en mangea. Et alors, que s'est-il passé? Les yeux se sont-ils ouverts? Si je vous posais la question et que vous suiviez le texte, vous diriez oui, bien sûr, leurs yeux se sont ouverts. Et en même temps, est-ce que la promesse de Satan s'est accomplie? Non. Oui et non. Oh là là, ça devient compliqué, hein, si je commence comme ça au début de ma prédication. Bon, on va essayer quand même d'éclaircir la question, puisque c'est le propos. Oui et non. Oui, par certains côtés, mais pas pour ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont tout de suite vu apparaître à leurs yeux la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui était d'un côté et ce qui était de l'autre côté? Non. Ils virent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils se découvrirent eux-mêmes, d'une certaine manière. Et ils découvrirent l'autre, bien sûr, d'une certaine manière. Une certaine réalité, une certaine connaissance qui ne donne ni le vrai regard sur le monde, ni surtout le pouvoir de se déterminer d'après ce qu'on a découvert. Tout au contraire, ils virent leur nudité, c'est-à-dire leur faiblesse, leur fragilité, leur vérité aussi, bien sûr. Avant, ils se regardaient et se voyaient de la même façon, sans problème, sans crainte, sans la crainte du regard de l'autre. Mais ils étaient dans leur faiblesse, dans leur vulnérabilité. Et voilà qu'ils se découvrent sous cet angle, la crainte vient et la honte s'installe dans le regard. Premier effet de cette rupture entre l'homme et Dieu, de cette désobéissance, de ce fait d'avoir écouté la parole du tentateur, ils se cachent l'un à l'autre. Et c'est le début de toute une chaîne de malheurs qui commence par le fait de se méfier de l'autre. C'est pourquoi aussi, lorsque Dieu vient, la première chose qui se rétablit, c'est l'amour du prochain. C'est le deuxième grand commandement. La crainte et la honte s'installent. Ils se cachent l'un à l'autre leur vérité. Leurs yeux s'ouvrent, mais ils ne veulent plus se voir tels qu'ils sont. Voilà la conséquence. On ne mesure pas tous les dégâts que le péché a causés à la vue. Et nous rejoignons la deuxième parole que je vous ai lue et qui se trouve donc dans l'Évangile selon Matthieu, où au début on est vraiment surpris de cette affirmation que Jésus parle en parabole, j'allais dire pour qu'ils ne comprennent pas. Mais l'explication vient après. S'ils ne comprennent pas, ce n'est pas parce que Jésus veut leur cacher la vérité, c'est parce que leurs cœurs se sont endurcis et ils ont fermé leurs yeux et leurs oreilles à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu, à la lumière de Dieu. Ils se sont bouchés les yeux et les oreilles pour ne pas se tourner vers Jésus et ne pas laisser leur cœur se transformer. Et c'est là où nous rejoignons cette vérité fondamentale. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, ce n'est pas littéralement un verset biblique, c'est une vérité biblique, mais celui qui l'a formulé ainsi, c'est Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ce qui est essentiel est caché à la vue, n'est pas accessible au regard. Et le texte que nous avons lu se termine par cette parole « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, parce que Jésus est là. » Les paroles de Jésus à ses disciples sont ainsi des paroles de révélation, d'ouverture du regard à la vérité. Et lorsque dans le parcours de l'enseignement de Jésus à l'égard de ses disciples et du fait qu'ils vivent ensemble et que les disciples voient vivre Jésus, il y a un épisode qui est raconté dans les évangiles, c'est qu'ils ont pris la barque pour traverser le lac de Tibériade et les disciples ont oublié de prendre des pains. Et Jésus, dans la barque, leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens. » Et eux, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait tranquilles, ayant oublié de prendre des pains, se sont dit que Jésus leur faisait cette observation parce qu'ils avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur a dit « Non, ce n'est pas du tout pour... par le côté, vous faire remarquer une petite erreur de gestion. C'est bien plus important que cela. C'est pour que vous vous gardiez du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'interprétation que les pharisiens donnent du réel. Et vous, leur dit Jésus, est-ce que vous êtes encore à chercher le sens, alors que vous savez très bien ce que j'ai fait. Vous ne vous souvenez pas la première fois où j'ai multiplié des pains, la deuxième fois où j'ai multiplié des pains. Combien de paniers avez-vous recueillis? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? C'est que les disciples étaient en chemin, en train de découvrir la réalité avec Jésus, et qu'ils avaient besoin d'être ramené à cette réalité. Il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir et des yeux ouverts pour bien voir. Vous connaissez bien des expressions de la vie courante sur le fait de voir et de comment voir. Pourquoi est-ce que je vois certaines choses et pas d'autres? Or, je me prêche à moi-même là en ce moment, hein. Pourquoi est-ce que je vois certaines choses et pas d'autres? Parce que je suis centré sur une chose et que l'autre, j'y pense pas, ou je suis distrait. Ce n'est pas simplement parce que j'ai une vue un peu affaibli, ce qui est mon cas. Et pour ce qui est d'entendre, on peut y ajouter, parce que je deviens un peu dur d'oreille aussi. Mais c'est parce que je suis distrait, que je pense à autre chose, et que cela ne me permet pas de voir l'ensemble de ce que je devrais voir. On peut marcher dans la rue en étant perdu dans ses pensées ou absorbé par l'écran de son smartphone. On connaît bien ce genre de situation. À un moment donné, je croyais qu'il n'y avait que les jeunes qui marchaient en regardant leur smartphone, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que les jeunes. Plusieurs expressions donc disent que nous voyons d'une certaine manière et pas d'une autre. Vous connaissez tous la célèbre chanson d'Édith Piaf, Voir la vie en rose, et vous savez dans quel contexte cette chanson a été écrite. Vous savez quels sont ceux qui sont réputés voir la vie en rose, ce sont les amoureux, bien sûr. C'est curieux parce qu'en même temps, on dit que l'amour rend aveugle. Enfin bon, vous choisirez entre l'interprétation d'Édith Piaf ou l'autre. Voir tout en rose, c'est bien. Mais on peut aussi voir tout en noir. Ça arrive parfois lorsque nous sommes envahis par la crainte, l'angoisse ou le pessimisme. Il peut nous arriver aussi de voir rouge. On peut faire défiler toute la palette des couleurs. Lorsqu'une vive contrariété nous atteint. Aux autres, parfois, nous disons, je te vois venir. Ce que tu as à faire et à dire se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a beaucoup d'expressions comme ça, qui décrivent un peu notre manière de voir. Il nous arrive de voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Il nous arrive de dire qu'il n'y a rien à voir ou que c'est tout vu. Bref. Ou de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. On peut donc avoir bien des angles de vue, bien des approches et bien des interprétations sur ce qu'on voit. Je ne vais pas vous rappeler, alors c'est un sujet évidemment sur lequel on pourrait développer bien des choses, mais nous avons dans l'écriture quelques points particuliers qui sont bien établis. Il y a, par exemple, dans le sermon sur la montagne, cette image, cette illustration sur la paille et la poutre. Vous connaissez tous, ceux qui connaissent l'écriture, le sens de cette illustration. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On n'a pas du tout la même vision et la même proportion des choses lorsqu'on se considère soi-même ou lorsqu'on considère les autres. Je voudrais vous lire un passage dans l'Ancien Testament qui est très éclairant sur cette question d'ouvrir les yeux et de voir la réalité. Je lis ce récit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël ?» Autrement dit, le traître. L'un des serviteurs du roi répondit « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dathan. » Il y envoya des chevaux, des chars et toute une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie, la capitale d'Israël. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Une histoire bien éclairante sur les yeux ouverts et les yeux fermés. Et ça, c'est l'action que Dieu peut faire pour montrer la réalité, pour montrer l'armée de l'Éternel dans la circonstance, pour montrer le secours de Dieu, pour montrer la délivrance, et pour montrer aussi par quels moyens on peut témoigner de la bonté à ses ennemis. C'est la mission du serviteur de l'Éternel. Voici ce que dit Ésaïe de ce serviteur qui va venir. « Je t'ai appelé, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. » Et nous savons que c'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il a ouvert les yeux des aveugles à de nombreuses reprises, et si vous voulez en lire une autre de circonstances d'ouverture des yeux, je vous invite à lire dans l'évangile selon Jean au chapitre 9 ce récit étonnant et très fort de la guérison de l'aveugle-né, du débat ensuite avec les pharisiens qui ne voulaient pas croire que Jésus avait ouvert les yeux de cet homme, qui l'ont fait venir, qui ont fait venir ses parents, vous connaissez cette histoire. Et à la fin, ils ont voulu persuader cet homme que Jésus avait guéri en lui ouvrant les yeux, que Jésus n'était pas le prophète envoyé par Dieu. Et ils ont dit à cet homme, « Donne gloire à Dieu, nous savons qu'il est un pécheur. » Vous savez ce qu'il leur a répondu ? « Je ne sais pas s'il est un pécheur ou non. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » ajouta-t-il. Et il s'est fait jeter, évidemment. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Et à la fin de ce récit, les pharisiens ont bien compris que Jésus était en train de leur faire une leçon essentielle. Et ils ont dit à Jésus, « Alors, est-ce que Nous aussi, nous sommes aveugles ? Et Jésus leur a répondu, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. Se croire lucide, se croire capable de voir clair et de percevoir la vérité et la réalité. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est aussi, bien sûr, la mission de ceux qui viennent pour témoigner de l'œuvre de Jésus. Et l'apôtre Paul, lui aussi, définit sa mission de cette façon. Jésus lui a dit, je te suis apparu, il a dit à l'apôtre Paul, pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire que je te ferai encore voir par la suite, ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Je voudrais aborder la dernière partie, la conclusion de ce que je partage avec vous ce matin. Voilà la mission de Jésus et voilà la mission qu'il a confiée à ceux qui croient en lui et qui, par la foi, ont eu les yeux ouverts sur la réalité. Nous sommes les privilégiés de ceux qui ont eu les yeux ouverts. Mais nous avons constamment besoin de revenir à cette réalité. Et nous avons constamment besoin de prier pour voir l'invisible, pour voir ce qui est caché au regard naturel, au regard simplement humain. Prière pour la connaissance de Dieu et la compréhension de ce qu'il nous dit. Nous n'aurons jamais fini d'avancer sur ce chemin. Et donc nous sommes encouragés, et c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous ce matin, nous sommes encouragés dans la vigilance et dans la prière pour la connaissance de Dieu et pour la compréhension de ce qu'il nous dit dans sa parole. Et pour cette possibilité que nous avons d'avoir un regard éclairé par la foi, qui voit beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas la foi, la réalité. Ouvre mes yeux, dit le psalmiste, pour que je voie les merveilles contenues dans ta parole. Prière de Paul aussi, pour les chrétiens d'Éphèse. Je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous prions ensemble et nous prions les uns pour les autres pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et le conseil qui est rapporté à la fin de la révélation biblique dans les lettres aux sept églises, il y a une, la dernière, qui a besoin qu'on lui rappelle cette réalité. Parce que, tout en étant une église, c'est-à-dire un ensemble de croyants, eh bien, elle en est arrivée à se croire autosuffisante. Dans Apocalypse 3, verset 18, tu dis, « Je n'ai besoin de rien. » Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Un peu comme au début de la Genèse. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Alors je suggère que chacun pour notre compte, et ensemble aussi bien sûr, nous fassions le point sur l'état de notre vue, pour que nous ne soyons pas, par aveuglement, convaincus que nous savons tout, que nous avons tout compris et que nous n'avons plus besoin de revenir vers le Seigneur avec cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux ou guéris mon regard pour que je voie les choses comme tu les vois. Ayons les regards sur Jésus, le chef de notre foi et celui qui la porte à son plein accomplissement. Veillons sur la lumière de nos yeux, la clarté de notre regard. Reconnaissons que nous ne voyons pas toujours bien, que nous ne voyons pas toujours clair. Acceptons le regard de Dieu sur nous et la guérison de nos yeux, que ce soit par sa lumière que nous voyons la lumière. Amen. Je voudrais vous proposer de conclure ce culte par le chant de deux cantiques. Le premier est une prière. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie. Et le second est un témoignage de foi. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Nous prions et nous témoignons de notre foi. Levons-nous.